La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous Raphaël Duchemin et c'est l'heure de découvrir la solution d'Elisabeth Assayag.
Vous avez peut-être un animal de compagnie, vous partez en week-end, eh bien sachez qu'il existe une solution, Elisabeth, ça s'appelle Pabette, pabette.com et c'est une plateforme de garde d'animaux en France.
Oui, près d'un foyer sur deux possède au moins un animal de compagnie en France et avoir un animal de compagnie, eh bien c'est une responsabilité constante. Alors vous partez quelques jours ou plusieurs heures. Vous avez peut-être envie de le faire garder. Pabette propose de faire garder vos compagnons gratuitement dans les meilleures conditions possibles. Pabette, parce qu'aucun échange d'argent sur cette plateforme, mais des crédits. Des crédits qui ouvrent droit à différentes prestations. Il s'agit d'une monnaie interne qui permet une équité parfaite aux adhérents. Bonjour Salim Boulaïch.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez fondé Pabette en 2018. Donc avec votre plateforme, si on sort quelques heures ou si on part une semaine, vous avez une solution pour garder nos animaux de compagnie et on a un retour sur la prestation.
Tout à fait.
Comment ça marche, Pabette,
c'est une plateforme collaborative de garde d'animaux entre particuliers. Comme vous l'avez bien souligné, ça fonctionne avec des crédits ou des points. Par exemple, si vous avez un chat et vous voulez le faire garder une durée de 3 jours, par exemple, il faut détenir 3 bébêtes.
Qu'est-ce que c'est les bébêtes ?
La bébête, c'est la monnaie.
Exactement. C'est le système de points, c'est la monnaie. Et donc, une bébête coûte uniquement 2 euros et ça permet de financer une journée de garde pour un seul animal. Donc, dans votre cas, si on monnaie la chose, ça va vous coûter uniquement 6 euros pour les 3 jours.
Quand on sait que les chenilles s'affichent parfois jusqu'à 15 euros par jour.
Même jusqu'à 25 euros par jour, effectivement.
Ça dépend de l'endroit.
Et le concept, en fait, où vont ces bébêtes ? Par exemple, si moi je garde votre chat pour les 3 jours, je vais récupérer vos bébêtes et que je peux réutiliser par la suite pour mon propre chien, par exemple, et le faire garder 3 jours gratuitement.
Et je peux le garder si je n'ai pas d'animaux ? Ou il y a des critères pour pouvoir garder les animaux ?
Non, non, c'est vraiment la plateforme, elle est ouverte à toutes les personnes, ayant des animaux ou pas, mais à condition qu'ils partagent notre vision, notre philosophie et nos valeurs surtout.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire l'amour de l'animal, le bien-être de l'animal, on place vraiment au centre de notre démarche. Et puis, être avec un esprit solidaire et l'entraide.
Et comment le savez-vous ça, puisque ça se passe tout sur votre plateforme ? Donc, y a-t-il des filtres ?
Alors, je n'ai pas tout dit. Pour les bébêtes, en fait, effectivement, ça permet de financer, mais ça nous permet aussi de veiller sur le bon fonctionnement de la plateforme parce que tout est enregistré, il y a une traçabilité de toutes les actions. Et ça nous permet aussi, via des algorithmes, de ressortir des échanges un peu douteux, notamment des négociations, et ça, on a eu des cas. Mais lors de l'inscription de la personne, on demande qu'il nous communique des pièces justificatives afin de valider l'identité de nos adhérents. Et puis, on est amené parfois à effectuer des entretiens individuels.
Donc, comment ça marche ? Donc, on remplit le profil de l'animal, c'est ça ? On renseigne son caractère ?
Tout à fait, c'est ça. En fait, il faut remplir le... Enfin, il y a une fiche descriptive pour la personne.
Oui, évidemment,
donc,
pour l'être humain.
Si elle peut accueillir des animaux, il peut uniquement se déplacer, quel animal, etc. Et puis, en contrepartie, effectivement, la fiche de l'animal, son comportement, s'il accepte ses congénères du même sexe ou pas, etc. etc.
Luc ?
Oui, alors trois petites questions rapides. La première, pour compléter ce que disait Elisabeth, est-ce que vous ne pourriez pas faire un classement, un peu comme les hôtels, parce que là, c'est quand même très subjectif. Il faudrait peut-être mettre des critères plus objectifs.
Notes, des évaluations.
Des évaluations parce que là, ça reste quand même un petit peu subjectif. Oh. Et ma deuxième question, est-ce que vous avez des régions où ça marche mieux ou c'est réparti de façon équitable ?
Alors, pour répondre à la première question, effectivement, il y a un système de notation. Après chaque prestation, on peut à la fois noter la personne, mais même noter l'animal. Parce qu'on peut mentir dans le descriptif. Qu'il ait des troubles comportementaux ou autres. Donc, autant tout clarifier dès le départ. Et pour répondre à la deuxième question, au départ, on a fait un démarrage en douceur parce qu'on voulait vraiment adapter en fait, la plateforme aux vrais besoins de nos adhérents. Et donc, on s'est limité vraiment à la région parisienne. Et par exemple, on était quasiment que 500 personnes. Donc, on était vraiment enfermés et avec quasiment un peu plus de 100 gardes. Donc, ce qui prouve que c'est une petite communauté, mais qui est très, très active. Mmh. Et du coup, il y a eu quelques articles sur Internet. On marche vraiment du bouche à oreille.
Et là, ça va de mieux en mieux.
Ça a explosé. Effectivement, en deux mois, on a gagné plus de 2500 personnes.
Et vous avez dépassé la France. Je crois que vous êtes même en Belgique maintenant.
Exactement. Depuis le début de cette année, enfin, on a 3 ou 4 adhérents belges. Donc, c'est un début.
On a parlé des chats, on a parlé des chiens. Vous gardez ou vous faites garder tous les types d'animaux ?
Tout à fait. Bah, après, effectivement, il faut avoir une certaine
compétence. C'est bon pour votre serpent.
Exactement.
Voilà. Enfin, pour les serpents, effectivement, après...
Il y a les nouveaux animaux de compagnie, donc c'est une vraie question.
Oui, mais il faut avoir une certaine compétence. Déjà, à mon sens, un serpent, il fait un peu peur, mais effectivement,
les rongeurs.
Oui, ça, c'est ouvert à tous les animaux.
Luc, le Sénégal.
Est-ce que vous pourriez envisager la garde à domicile ? C'est-à-dire, attention, je dis bien pas de... Parce qu'il y a certains animaux préfèrent, les chats par exemple, rester chez eux, mais avoir des vrais professionnels au contact. Parce que venir nourrir un chat, venir s'occuper d'animaux, il faut aussi que ça soit professionnel. Est-ce que vous avez envisagé ça vous partez 3 semaines en vacances ou 8 jours en vacances, que quelqu'un vienne, mais pas uniquement voir si tout va bien, s'occuper de l'animal, lui tenir compagnie au sens propre, le nourrir correctement, parce que c'est aussi...
Pas le dépayser, venir directement à domicile. Oui, est-ce que ça existe ? Est-ce que c'est un service que vous proposez ?
Oui, tout à fait, en fait ça existe. Quand on effectue une recherche, alors là, pour celui qui va nous rendre service, on choisit soit qu'ils seront à notre domicile, soit il nous dépose son animal et puis...
Les deux existent.
Voilà, exactement.
Ça s'appelle pabette.com. Merci beaucoup d'être venu nous présenter cette solution aujourd'hui sur Europe 1.
Il est midi 57.
Europe 1.
Et vous restez avec nous, bien sûr. On va plonger aujourd'hui à la découverte des innovations du secteur. Sur Europe 1, c'est la France qui bouge. À tout de suite. Europe 1.
Aux côtés des chefs d'entreprise et de leurs équipes, AXA Prévention vous présente La France bouge.
Europe 1, midi 14h, La France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge. Ici, vous le savez, on aime découvrir des innovations. Et en ce moment, le salon de la plongée ouvre ses portes à Paris. Et c'est un secteur qui attire de plus en plus de monde. Il y a entre 6 et 7 millions de pratiquants dans le monde, mais beaucoup moins de licenciés forcément. Et c'est une activité qui demeure essentiellement masculine, mais vous allez voir que ça se démocratise et que surtout c'est un secteur qui innove pour justement pouvoir parler au plus grand nombre. Bonjour Franck Vautier.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le fondateur de Calypse. Vous avez créé des combinaisons sur mesure à partir d'un logiciel 4D. Et pourtant au départ, alors ça n'était pas du tout... Alors, pas du tout votre métier. Racontez-moi comment on change de vie, puisque au départ, vous étiez ingénieur biomédical.
De formation, oui. Et j'ai toujours travaillé dans le secteur médical. Et j'ai créé, il y a plus de 20 ans, une société de soins à domicile. Et au bout de 20 ans, pour différentes raisons, j'ai vendu cette société. Et puis, après l'avoir vendu, au bout de 6 mois, 9 mois, j'ai commencé à tourner en rond. Donc, il fallait que je refasse quelque chose. Soit recréer une structure, soit racheter une structure. Et étant plongeur, après c'est le hasard des discussions, des rencontres, j'ai décidé donc de créer une marque pour répondre à différents problèmes connus dans le domaine des combinaisons.
Oui, parce que vous êtes effectivement pratiquant depuis une vingtaine d'années, je crois. Vous avez débuté avec votre fils aussi.
Et j'ai attendu, oui, qu'il ait l'âge de passer son niveau 1 pour
le passer.
C'est-à-dire
8 ans.
Oui.
Vous avez plongé aux quatre coins du monde et il y a une chose qui ne change pas ou presque pas, c'est la fameuse combi noire que doivent mettre les plongeurs.
Exactement. Enfin, noir jusqu'à présent.
Noir jusqu'à présent.
Voilà.
Mais vous vous êtes dit, peut-être qu'il faudrait amener un petit peu de gaieté dans tout ça.
Alors, il y avait effectivement deux réflexions. La première, c'est que quand vous plongez, que vous êtes sur un bateau, vous observez que, généralement, les plongeurs ont du mal à enfiler leur combinaison.
Oui.
Que, généralement, la combinaison n'est pas forcément très confortable. Et en plus, effectivement, elle est noire.
Oui.
Elle est noire, quelles que soient les marques, c'est toujours noir.
Et alors, vous trouvez qu'on ressemble à une otarie dans la combinaison noire,
ben,
c'est ça ?
Pas vous ?
Sûrement. Mais en rose, je me demande à quoi je ressemblerai, parce que vous nous en avez amené une de combinaison rose. Vous avez donc travaillé la couleur et la matière. Bon. Comment est-ce que vous avez fait ?
La couleur, en fait, au tout début, il a fallu d'abord travailler le design. Donc il a fallu trouver une styliste qui soit capable de nous sortir des modèles innovants. Donc il fallait trouver une styliste qui n'a jamais pratiqué la plongée, qui ne savait pas ce que c'était qu'une combinaison de néoprène, oui, quel que soit le sport, pour qu'elle n'ait pas d'a priori. Et elle a réussi à nous sortir différents croquis, plusieurs croquis, que l'on a soumis à un pool de clients et de clientes, enfin, puisqu'on fait aussi des combinaisons pour hommes. Et c'est eux qui ont choisi tel design que nous avons retenu. Et une fois que les designs ont été retenus, il a fallu choisir les couleurs. Et là, c'est pareil, c'était des séances de travail pour savoir quelle couleur vous voulez. Voilà. Et c'est vrai que le rose ou le fuchsia est évidemment ressorti. Et ce qui est amusant, c'est qu'on s'aperçoit qu'en fonction des pays, les couleurs choisies par les femmes ne sont pas forcément les mêmes. Et je me suis amusé à vous apporter celle-ci, qui est celle qui est le modèle qui est le plus commandé actuellement aux États-Unis.
Aux États-Unis, ouais. Le fuchsia. Et ouais. C'est vrai qu'il est magnifique. Vous créez sur mesure, parce que en fait, ce qu'on n'a pas expliqué, c'est que tout est fait en 4D et vous pouvez recréer un avatar du client, c'est-à-dire que vous vous mettez aux dimensions de la personne qui va entrer dans la combinaison. C'est aussi pour ça que c'est extrêmement flexible.
Alors, aux dimensions, oui, mais ça, il suffit de faire du sur mesure pour faire aux dimensions. Ce qui fait la caractéristique principale de nos combinaisons, c'est qu'effectivement, elles sont créées d'abord en 3D, c'est-à-dire en volume. Et à l'aide des mesures prises sur le client et de 3 photographies, nous arrivons à recréer l'avatar du client. C'est-à-dire qu'on va recréer votre avatar à vous, avec toutes vos caractéristiques morphologiques. Et c'est surtout très intéressant pour les femmes, puisque vous avez des morphologies toutes différentes.
Bien sûr.
Chez les hommes, globalement, mis à part un peu de ventre en fonction de l'âge ou des choses comme ça, ça reste assez standard. Chez les femmes, ce n'est pas le cas. Et donc, on arrive à recréer votre avatar. Et sur votre avatar, nous allons positionner les empiècements de la combinaison. Et lorsqu'ensuite, nous allons recoller les empiècements et les coudre, c'est-à-dire fabriquer la combinaison, nous allons avoir sur le centre votre enveloppe corporelle. Et c'est ça qui rend la combinaison facile à porter.
À enfiler parce et que à retirer.
Ben vous ne l'enfilez plus, vous vous glissez à l'intérieur. Et ça change tout.
Ça intéresse évidemment Luc le Sénécal. Hein,
Franck, votre aventure me passionne. Parce qu'au fait, dans votre vocabulaire, vous partez d'un élément très technique, mais vous utilisez design, styliste. Et je fais énormément de parallèles avec Saint-James. Saint-James, on est né d'un vêtement, d'un pull marin, qui est un vêtement de protection en mer. Donc on a un point commun. Et maintenant, on est parti un peu dans la mode. On est, j'ai le sentiment que vous avez cette même approche et je pense que vous avez beaucoup d'avenir. Alors, est-ce que vous en vendez beaucoup? Est-ce que vous allez vous positionner dans le haut de gamme? Parce que du sur-mesure, c'est quand même quelque chose. Est-ce que c'est cher? Dites-en-nous un peu plus sur vos marchés, là, sur votre stratégie.
Sur le positionnement, oui, c'est, on pourrait dire, du haut de gamme parce qu'effectivement, le produit est plus cher qu'une combinaison standard fabriquée à Taïwan. Il faut savoir que toutes les combinaisons sont fabriquées dans la même usine à Taïwan.
Une combi comme celle-là, c'est 560, 600 euros, c'est ça?
Pour nous, oui.
Environ.
Fabriquée où?
À Montpellier.
En France? Oh, ouais. Super.
Ouais.
Super.
Alors, par contre, il faut qu'on précise que la matière, elle, ouais, elle est pas française.
Non. Le néoprène, on le trouve effectivement à Taïwan. Voilà. Pour l'essentiel, 90% du néoprène est fabriqué par par un fournisseur à Taïwan qui fabrique les combinaisons pour toutes les marques.
Mais la confection est faite à Montpellier.
Mais nous, on achète les plaques qui arrivent à Montpellier et
vous dessinez.
Et la coupe et la confection. Ouais.
Vous avez aussi créé, développé des shorties, des maillots, un petit peu dans le même esprit.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand vous plongez au Mexique ou dans les mers chaudes, vous n'allez pas plonger avec une combinaison intégrale. Donc, on a créé des shorties. Et puis, alors on sort un peu du domaine de la plongée, mais nous avons créé des maillots...
Avec des diamants Swarovski, j'ai vu ça.
Des cristaux Swarovski.
Oui.
Oui, tout à fait. Et avec l'inspiration des premières James Bond Girls.
Oui.
Et voilà.
Là, c'est la mode, c'est la fashion. Là.
On a essayé, exactement. Donc, en fait, les points de vente ne sont plus les magasins de plongée, c'est effectivement les magasins de mode.
Elisabeth, vous avez trouvé d'autres fabricants de combinaisons de plongée des
françaises
bien sûr.
Topstar, vous connaissez Topstar?
Oui.
Topstar, ça a 50 ans. C'est une histoire qui est née sur le bassin d'Arcachon et le fondateur de Topstar, à la base, était un chasseur sous-marin. Et il y a 50 ans, le fondateur, qui s'appelle Jackie, a fabriqué sa première combinaison pour se protéger du froid. Ça part aussi un peu comme vous le disiez, Luc. On prend un textile pour une cause bien particulière et ensuite, on se dit que c'est possible pour... Là, c'était pour la protection thermique, donc pour le froid. Et il voit qu'il y a un intérêt particulier dans l'utilisation du néoprène. Et il met au point les combinaisons ensuite pour le commandant Cousteau. Et depuis, c'est toujours été fabriqué en Gironde. Ça cartonne et ça s'appelle Topstar.
Vous avez vu une évolution du marché. Nous, Français, on est positionnés comment sur ce marché de la combinaison par rapport à la concurrence?
Pas très bien.
Pas très bien, pourquoi?
Il y a des raisons, mais c'est des raisons historiques sur qui pratique la plongée. L'approche sur ce produit est totalement différente, ne serait-ce qu'en Allemagne ou dans le reste de l'Europe, et surtout aux États-Unis ou à Hong Kong ou au Japon. C'est pas du tout la même approche.
On reste ensemble? On continue à parler plongée sous-marine aujourd'hui sur Europe 1. Il est 13h18.
Europe 1.
On a enfilé ou on s'est glissé dans la combi. On vous emmène sous l'eau maintenant. Il y a des paliers à respecter. O-Dive vous aide. C'est un capteur connecté pour personnaliser la décompression. A tout de suite. Dans la France Bouge cet après-midi, on parle de plongée sous-marine et des innovations dans ce domaine. Et vous, est-ce que vous plongez? Avez-vous des questions pour nos invités? Dites-le nous sur Twitter, hashtag Europe 1, ou alors appelez-nous au 3921 Raphaël. Quand on pratique la plongée sous-marine, il y a tout un tas de règles à connaître et à respecter. Or, beaucoup s'affranchissent de ces règles et il arrive que des accidents surviennent quand la procédure n'est pas respectée à la lettre. Bonjour Axel Barbeau.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes un ancien officier de la Marine nationale.
Absolument.
Et alors, quand vous avez quitté la marine, vous aviez une idée en tête, créer votre entreprise, parce que justement, vous vous étiez aperçu que les accidents de décompression se multipliaient. Il faut dire que vous étiez plongeur.
Absolument.
Dans l'armée.
Absolument. Moi-même, j'étais plongeur des mineurs dans la Marine nationale. Alors, j'ai eu un passé de sous-marinier puis plongeur des mineurs. Et en fait, j'étais notamment en charge de la sécurité des plongeurs pour la marine et pour les armées. Et c'est dans ce cadre-là qu'a germé le projet. Alors, peut-être le contexte, tout simplement, qu'est-ce que c'est? Alors, si on parle de la Marine nationale, c'est 100 000 plongées par an. Et donc, nécessairement, c'est la problématique des accidents de décompression, qui est bien connue des plongeurs. Qu'est-ce que c'est que cette problématique? C'est un plongeur, normalement, avant de revenir en surface, doit réaliser des paliers de décompression. Et bien que réalisant ces paliers de décompression à la lettre, donc sans faire d'erreur, il y a un certain nombre de personnes qui font ce qu'on appelle un accident de décompression. Un accident de décompression, qu'est-ce que c'est? Ce sont des bulles de gaz qui se forment dans l'organisme du plongeur et qui peuvent créer un certain nombre de dégâts. Et alors, pourquoi ces accidents surviennent en dépit du respect des procédures? Tout simplement parce que toutes les procédures ne sont pas adaptées à tous les plongeurs.
Donc vous vous dites, il faut développer un outil. C'est comme ça que naît Azote System et que vous mettez 8 ans à réaliser ce que j'ai dans la main.
Absolument.
O-Dive.
Absolument.
Alors ça s'écrit O et plus loin D-I-V-E pour la plongée.
Tout à fait.
Comment ça marche? Il y a un capteur qu'on va aller placer sous la clavicule avant la plongée, c'est
absolument.
Ça? Et qui va mesurer
après
quoi?
Après la plongée. Alors en fait, c'est un capteur acoustique ultra sonore qui fonctionne par effet Doppler et puis qu'on vient positionner sous sa clavicule et on vient monitorer le flux veineux dans la veine sous-clavière.
Et
en fait,
ce
capteur, il va compter les bulles, tout simplement, après la plongée. Parce que le plongeur, une fois qu'il est en surface, éventuellement, il va faire des bulles. Et s'il y a beaucoup de bulles, ça veut dire, pour faire simple, que sa procédure de plongée était finalement peu adaptée à sa pratique. Et puis, à l'inverse, s'il y a beaucoup de bulles, c'est qu'elle n'était pas adaptée. Et donc, notre capteur va nous renseigner sur la situation du plongeur. Et on va pouvoir lui faire des recommandations en fonction de sa situation personnelle.
Donc, il va être noté, c'est ça, entre 0 et 100?
Voilà, c'est exactement ça.
Et on va lui dire, tu aurais dû plonger de telle et telle manière. Qu'est-ce qu'on peut corriger, par exemple?
Donc, il va recevoir un indice de qualité de sa procédure, entre 0 et 100, avec une zone rouge, une zone orange, une zone verte. Donc, autant que possible, essayons de rester dans la zone verte.
Vert, oui.
Et si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, il va pouvoir accéder à un simulateur qui va pouvoir lui donner des indications très précises sur la manière de faire évoluer sa pratique pour améliorer sa sécurité. Et donc, aujourd'hui, on estime, donc derrière ce système, il y a plus d'1 million de plongées qui ont été analysées, On a des bases de données énormes. Et on estime qu'avec ce système, aujourd'hui, on est en mesure d'améliorer la sécurité des plongeurs d'un facteur 10. Donc on n'est pas dans une innovation de cosmétique, c'est une vraie innovation de rupture. Et en fait, ça explique aussi pourquoi est-ce qu'il a fallu autant de temps pour réaliser cette technologie.
Parce que ça y est, le capteur est sorti en 2019.
Absolument, donc c'est tout récent. Il est commercialisé depuis le mois de mai dernier. Et voilà, effectivement, c'est tout récent.
Notre coach, Luc Le Sénécal.
Ah, si j'ai bien compris, c'est un système qui vérifie a posteriori. Est-ce que vous pensez que dans le futur, vous pourriez développer quelque chose en instantané? Je suis en train de plonger, j'ai bien compris que c'était la mesure des bulles. Ça serait peut-être
On cherche à se rapprocher de l'instantané dans le sens où aujourd'hui notre système va être capable de vous donner une indication si vous faites des plongées successives, par exemple, si vous faites une plongée après une première plongée, là notre système va pouvoir vous donner une indication. Mais il se trouve que physiologiquement, et c'est un phénomène physique, les bulles surviennent après la plongée. Donc on est bien obligé d'attendre après la plongée que ces bulles surviennent pour pouvoir analyser. Et en fait, après, ce qui nous intéresse finalement, c'est d'éviter les accidents. Et il se trouve que on a besoin d'avoir une mesure qui est corrélée à ce niveau de bulle, donc on est obligé d'attendre après la plongée.
Voilà. Le prix ?
Alors le prix, il y a deux versions. Une version pour la plongée Air Nitrox, donc la plongée classique, qui est à 590 €. Et pour les plongeurs techniques, donc avec beaucoup d'options supplémentaires, on est à 790 €.
Ça, c'est la
version individuelle. Il y a une version aussi qui permet d'équiper les clubs de plongée pour que les clubs de plongée mettent le service à disposition des plongeurs.
150 déjà vendus, c'est ça, en 8 mois ?
C'est ça, dans plus de 15 pays. Et donc nous-mêmes, on a été surpris par l'ampleur du phénomène et le caractère international du phénomène.
Alors, puisqu'on est en pleine plongée, Elisabeth, on ne se rend peut-être pas compte, mais la plongée, c'est quand même beaucoup d'emplois.
On compte, on estime à 650 le nombre d'emplois permanent, hein, direct dans les centres de plongée en France. Mais il faut aussi ajouter les travailleurs indépendants qui travaillent notamment haute saison et pendant les week-ends pour environ 2200 clubs associatifs et 420 structures professionnelles.
On a parlé prix aussi. C'est quoi le prix aujourd'hui d'une plongée ?
Environ 45 €, équipement non fourni. 33-35 € entre plongeurs autonomes et le baptême, si vous souhaitez en faire un, coûte entre 60 et 70 €.
Et puis, vous avez trouvé aussi des expériences qui ont lieu dans le milieu sous-marin, parce que là, on est sous l'eau. Je crois qu'il y a pas mal de choses en ce moment qui sont en cours.
Oui, notamment avec l'expédition française Under the Pole, avec Emmanuel Perrier-Bardou et Guylain Bardou. Deux programmes scientifiques, dont le second consistait à mettre en place un habitat sous-marin pour vivre sous l'eau et étudier les récifs coralliens.
Vous avez eu déjà des premiers retours d'expérience de votre capteur,
Axel ?
Oui.
Absolument, puisqu'aujourd'hui on a plus de 1000 utilisateurs de cet appareil, donc on a énormément de retours d'expérience, et les retours d'expérience sont très favorables, et aujourd'hui il y a une véritable communauté qui s'est créée autour de ce produit, et en fait cette communauté aujourd'hui, on interagit beaucoup avec elle pour le faire évoluer, donc c'est une richesse qui est absolument exceptionnelle pour faire progresser ce produit. Voilà.
Vous avez le sentiment que les choses évoluent au niveau technologique justement ces dernières années dans ce monde de la plongée que vous connaissez bien ?
Eh bien, j'ai l'impression qu'effectivement il y a un virage qui a été pris au cours des 5 dernières années et peut-être plus particulièrement ces 3 dernières années. Je pense que voilà, on a mis un petit peu de temps dans le domaine de la plongée à rentrer dans le nouveau millénaire, mais ça y est, il semblerait que le pli soit pris aujourd'hui. On voit pas mal d'innovations, donc oui.
Et il y en a déjà 3 autour de la table des innovations. On va continuer justement à plonger ensemble aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h27.
Europe 1.
Vous portez des lunettes et vous plongez. Et si vous pouviez avoir un masque à votre vue, à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Quelles sont les innovations dans le domaine de la plongée ? On en parle cet après-midi dans La France Bouge avec vos invités, Raphaël. Pour agir, c'est simple, écrivez-nous sur Twitter, hashtag Europe 1, ou alors appelez-nous au 3921. Et quand on est passionné de plongée et opticien de métier, forcément, arrive un moment dans la vie où on a envie de faire rimer les deux. Bonjour Gilles Demetz.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de Demetz. Ce que je viens de décrire, ça s'applique à vous, bien sûr, mais ça s'est appliqué aussi à votre père qui a créé la société en 1950. Il était dans l'équipe de France de nage à palme, plongeur professionnel, et opticien. Et ce sont ses amis, en fait, qui, les premiers, lui ont dit « Tu ne pourrais pas créer une marque adaptée à notre vue ?» C'est ce qu'il a fait en 1951.
Tout à fait.
C'est comme ça que ça démarre.
Il a créé effectivement le premier masque de plongée avec verre correcteur suite à différentes demandes de ses petits camarades plongeurs qui avaient des problèmes de vue. Alors à l'époque, c'était effectivement un peu l'époque de Cousteau, c'était des masques hublots qui étaient ronds. Donc il avait fait développer une sorte de face de lunettes qui ventousait à l'intérieur des masques. Bon, après, il y a eu beaucoup d'évolutions au niveau des verres. Il y a eu le collage de verres sur le verre d'origine et après le remplacement de verre d'origine par un verre optique. Et puis là, dernièrement, effectivement, une innovation, puisque jusqu'à maintenant, on utilisait le verre en matière minérale. Maintenant, on utilise, on va dire, du polycarbonate, qui permet surtout d'avoir un coût moindre.
Alors, il vous a transmis, évidemment, les deux passions, j'ai envie de dire. Hein.
Exactement.
Et vous arrivez dans l'aventure dans les années 80, je crois, c'est
années ça ? Années 85, 87, oui.
Vous développez d'abord d'autres gammes, et puis finalement, vous revenez aux premières amours.
Toujours. Toujours aux premières amours. Effectivement, en fait, quand j'ai repris la société, il y avait les masques de plongée et la lunette de natation qu'il a créée aussi en 68 avec verre correcteur. Et suite à beaucoup de demandes en fait, d'opticiens, on a développé une multitude de lunettes pour la pratique de sport, pouvant être équipé de verre correcteur.
Oui, parce qu'il a fait beaucoup de choses, votre père. Hein. Il avait aussi développé en parallèle le Subaqua.
Le Subaqua Club de Paris.
Exactement.
C'était un des premiers clubs de plongée de Paris.
Et aujourd'hui, vous êtes passé dans la nouvelle ère, on va dire. C'est-à-dire que vous essayez de faire changer les choses et vous nous avez amené un masque, un masque de plongée, où effectivement, on va venir clipser. Les verres correcteurs, c'est-à-dire que ce verre-là, il va être adapté à ma vue.
Oui.
Et ensuite, je vais pouvoir le poser sur mon masque.
Alors, tout à fait. Alors, adapté à votre vue, ce n'est pas du sur-mesure. Ce que l'on fait jusqu'à maintenant avec le verre minéral, on fait du complètement sur-mesure. Là, c'est, on va dire, des corrections pour la myopie, de moins 2 à moins 6, qui correspond à peu près à 80% des gens qui sont myopes, et aussi pour la presbytie. Donc, la presbytie, c'est effectivement à partir d'un certain âge, environ 45 ans, on a des problèmes de pouvoir de près. Dans l'air, on l'a aussi dans l'eau. Et on a des organes de sécurité qui sont les ordinateurs, le manomètre, etc., qui nous permet effectivement de plonger dans toute sécurité. Et il faut les voir en vision de près. Donc, on a besoin aussi de la vision de près. Et on a fait ces verres-là sur ce masque-là.
Ça veut dire qu'on peut démonter, remonter le masque, c'est ça ?
On peut démonter, remonter, effectivement, le prêter à quelqu'un qui n'en a pas besoin de verre correcteur. Et puis, remonter ces verres correcteurs tout de suite, en même pas 10 secondes, sur le masque.
Alors aujourd'hui, ces masques, vous les concevez à Villiers-sur-Marne, vous les faites fabriquer en revanche à Taïwan, c'est
ça ? Oui, tout à fait.
Pour quelle raison ? Il n'y a pas de moyen de faire fabriquer aujourd'hui ? Ici en France, c'est une question de matière ?
Alors, c'est une question de matière, c'est aussi malheureusement un peu une question de coût.
Et surtout ?
Voilà, et aussi, surtout une question de coût. Et là, en fait, dans le développement de ce produit, qu'on a sorti il y a maintenant 4 mois, lors du salon de l'optique qui s'est passé à Paris. Un des premiers critères, c'était le coût. C'est-à-dire qu'on voulait en fait rendre accessible un masque de plongée avec verre correcteur pour aussi bien la personne qui débute, qui n'est pas encore certain de faire un plongeur confirmé, donc avoir un investissement moindre. Et puis, les accompagnants qui souvent, quand on part faire de la plongée dans différents pays, on est de temps en temps en couple, entre amis, on est accompagnant, et on peut faire que de la PMT, c'est-à-dire pas le même masque tuba, du snorkeling, et malheureusement, quand on ne voit pas bien en dehors de l'eau, on ne voit pas bien aussi sous l'eau, et là, ça permet un moindre coût, puisque, on va dire à moins de 80 euros, on va pouvoir avoir un masque avec ces deux verres correcteurs.
Alors, justement, les verres correcteurs, pour le coup, ça c'est français.
Oui, tout à fait.
C'est important pour...
Alors, voilà, tout à fait, le verre correcteur, il est surfacé en France. Il est taillé en France et on fait bien sûr ça et on distribue à tous les opticiens en France et en Europe, bien sûr.
Je vois Luc le Sénécal hocher de la tête.
Ça me rassure que vous fabriquiez au moins les verres en France. Comment ça se passe concrètement ? Vous venez avec votre ordonnance pour acheter votre masque ? Vous passez par quel créneau de distribution ? Il faut d'abord aller chez l'opticien ?
Comment le particulier qui plonge effectivement va faire ? Effectivement, il va chez son opticien avec une ordonnance ou avec ses lunettes, avec sa dernière correction. L'opticien a bien souvent des masques de présentation où le client peut venir avec son masque, parce que des fois on peut équiper le masque. 80% des masques sur le marché, on peut les équiper de verre correcteur. Et quelle que soit la correction qu'il va avoir, qu'il soit myope, astigmate, presbyte, on va pouvoir effectivement lui rendre la vue sous l'eau. Voilà. Et au niveau des délais, on est, on va dire, entre 3-4 jours et à peu près une quinzaine de jours, suivant la complexité de la correction. Donc l'opticien, après, nous passe la commande.
Donc vous êtes diffusé à travers le...
À travers les 12 500 opticiens qu'il peut y avoir en France, y compris ceux qui sont en Europe aussi.
Elisabeth, le marché de la plongée, aujourd'hui, on sait dire, je parlais tout à l'heure de 6-7 millions, mais...
Oui, en France, on compte un peu plus de 300 000 plongeurs.
Et ah oui,
vous... oui mais pour vous donner une idée, aux États-Unis, ils sont 3 millions. Et sur le marché européen, il y a les 3 autres millions, il y a 3 millions de plongeurs. 75% des plongeurs européens choisissent de plonger en mer Méditerranée.
Oui, parce que la France possède quand même un domaine maritime intéressant et assez vaste pour plonger.
Oui, la France possède, grâce à ses îles, le deuxième domaine maritime mondial.
On me dit dans le casque, Laetitia me dit on est les meilleurs.
En tout cas, juste derrière les États-Unis, en termes de domaine maritime, l'ensemble est bordé par environ 18 000 km de côte propice à la pratique de la plongée sous-marine.
Et puis tout à l'heure, on parlait des licenciés, des plongeurs amateurs. On a une idée des chiffres. Alors, les plongeurs sont licenciés ?
Oui, près de la moitié des plongeurs sont licenciés, notamment à la FFE2SM, la Fédération officiel de plongée sous-marine, et il y en a tout de même, il représente à peine 5% des licenciés, mais il y en a certains qui sont licenciés à la FSGT, c'est la Fédération Multisport, c'est la seule qui est habilitée à délivrer cette qualification de plongée en France.
Alors parmi les plongeurs, je crois qu'il y a un certain prince régnier de Monaco, n'est-ce pas?
Ouais,
n'est-ce pas, Gilles Demetz?
Ouais.
Je crois que vous avez une anecdote avec lui.
Oui, c'était il devait y avoir à peu près 2 ou 3 ans. Pierre Frolla, qui est un champion d'apnée, champion du monde que beaucoup de gens connaissent, et le plongeur, on va dire, officiel, qui plonge avec le prince Rignier. Il est venu nous voir, en fait, sur notre stand, au salon de la plongée, en disant « Je suis très embêté, parce que chaque fois que je fais plonger notre prince Rignier, ben, il ne voit rien. Et quand on remonte de la plongée, « Est-ce que tu as vu ça ?»« Est-ce que tu as... Non, je n'ai rien vu. » Donc il m'a dit « Est-ce que tu peux faire quelque chose ?» Ben, bien sûr qu'on peut faire quelque chose. Il est myope, il est encore myope, et presbyte. Et on l'a équipé avec un masque, avec des verres correcteurs. Il était absolument adorable puisqu'il nous a même envoyé une petite lettre de remerciement. Enfin, j'ai découvert les fonds sous-marins que j'ai pas pu découvrir jusqu'à maintenant.
Voilà. Et puis, il y a de belles choses à voir du côté de Monaco, bien sûr. On reste ensemble et on continue à plonger aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h37.
Europe 1.
Et venez donc plonger avec nous, 3921 Twitter, hashtag Europe 1. On vous attend, la France bouge aujourd'hui.
Aux côtés des chefs d'entreprise et de leurs équipes, AXA Prévention vous présente La France bouge. Et dans La France bouge cet après-midi, on parle des innovations dans le domaine de la plongée avec vos invités, Raphaël.
Nous sommes avec Franck Vautier, fondateur de Calypse, qui crée des combinaisons de plongée sur mesure à partir d'un logiciel. Axel Barbeau, fondateur président d'Azote System, qui commercialise Odive, capteur connecté qui personnalise la décompression. Et Gilles Demetz, directeur général chez Demetz, qui a commercialisé le tout premier masque de plongée adapté à sa vue. Notre coach, c'est Luc Le Sénécal. Président du label des entreprises du patrimoine vivant et évidemment dirigeant de Saint-James et évidemment à ma côté comme chaque jour Elisabeth Assayag est là. On était en train de parler de la peur de plonger ou de l'appréhension de plonger. Est-ce que ce que je disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a plus d'hommes que de femmes qui plongent aujourd'hui? Est-ce que c'est un fait avéré, Axel Barbeau?
Oui, je pense que très largement, les hommes sont très largement surreprésentés par rapport à la population féminine, mais c'est quelque chose qui évolue et on voit, je pense, de plus en plus de femmes. C'est un sport qui s'ouvre.
Oui, Franck Vautier.
Une des raisons aussi, c'est que c'est un peu, je fais un peu le parallèle avec le cyclisme, c'est que jusqu'à présent, le matériel était peu adapté à la morphologie féminine. Je ne parle pas uniquement de la combinaison.
Bien sûr.
Et de tout le reste. Mmh. Et le design non plus n'était pas adapté.
Donc aujourd'hui, cette évolution entraîne aussi un autre public à s'intéresser au domaine de la plongée. Vous nous disiez d'ailleurs, parce qu'on parlait tout à l'heure des combinaisons, vous nous disiez que certains plongeurs, notamment Elisabeth, il faisait référence, il y a je suis en train de chercher le nom de l'expédition dont on a parlé tout à l'heure.
Under the Pole.
Under the Pole, qui plonge avec vos plongées, vos combinaisons.
Exactement. Tout à fait, c'est vrai.
Alors, je complète en disant qu'en fait, Azote System a accompagné toute l'équipe Under the Pole. Et en fait, nos capteurs Woodhive ont monitoré Guylain Bardou, Emmanuel, toute l'équipe Under the Pole pendant de nombreuses semaines, avec des résultats absolument passionnants qui vont être publiés prochainement.
Luc Le Sénécal, notre coach.
Tous les trois, là, dans votre secteur, vous avez aussi vos produits peuvent sortir aussi du secteur de la plongée. Et je pensais, parce que je crois que vous avez fait également des lunettes pour le ski, des masques pour les motos, etc.
Nous, en fait, on a créé en fait tous les sports. Enfin, quand je dis tous les sports, toutes les lunettes pouvant effectivement s'adapter au sport. Il n'y a que les sports de combat que l'on peut pas, avec lesquels on ne peut pas avoir des lunettes, malheureusement.
J'ai rarement vu de combattants avec des lunettes.
Après, effectivement, un des sports les plus pratiqués, c'est la lunette de natation. C'est la natation, donc on a effectivement créé la lunette de natation il y a très longtemps. On a essayé de la démocratiser maintenant avec des prix relativement accessibles avec verre correcteur, parce qu'il y a à peu près 15 millions de Français qui pratiquent la natation. Donc c'est aussi...
Vous faites 10 000 masques de plongée par an, c'est ça à peu près ?
10 000 masques avec verre correcteur, oui.
Oui, et en 2019, vous avez véritablement connu une belle croissance, hein, parce que 31% de progression, c'est quand même un très beau chiffre. Vous avez le sentiment que voilà, il y a de plus en plus effectivement de surmesure qui est demandée par le public.
Il y a de plus en plus de surmesure. En même temps, en France, la population française est très sportive, hein, parce qu'il y a 64% des Français pratiquent au moins une activité sportive une fois par an. 60% aussi des Français portent des lunettes. Donc notre activité concerne énormément de personnes. Et je pense qu'ils prennent de plus en plus conscience, à travers aussi la communication, parce qu'on essaie de communiquer de plus en plus et de faire connaître nos produits, qu'une lunette de natation, un masque de plongée, ça ne vaut pas aussi cher que ça. Et c'est quand même vraiment pratique pour la pratique de son sport, pour être content et pratiquer correctement.
On a sur Twitter une question de notre fidèle auditeur, Marc, évidemment.
Oui, #Repin, qui nous dit: la sécurité forcément omniprésente dans la pratique de la plongée. Qui contrôle la fiabilité de vos innovations?
Bonne question. Qui veut répondre? Axel Barbeau.
Pour ce qui nous concerne, en fait, donc la technologie, elle a un marquage CE. Donc c'est tout simplement une auto-certification. Alors après, cette auto-certification, elle se fait dans un domaine réglementaire qui est bien précis. Et donc ça, ce sont des laboratoires qui vont contrôler les performances qu'on annonce. Mais la responsabilité de synthèse de la certification, c'est l'entreprise qui programme son marquage CE.
Franck Vautier.
Pour les combinaisons de plongée, là c'est un peu plus cadré. La combinaison en fait est destinée à vous protéger du froid. Donc c'est un équipement de protection individuelle, et pour être vendu en France, il faut que nous ayons ce marquage CE qui est délivré par un organisme qui va tester les combinaisons, tester le néoprène, tester le pouvoir isolant du néoprène.
Idem, Gilles Demesse.
Exactement pareil, avec effectivement un ou deux laboratoires en France qui peuvent faire ce type de test, avec des résistances au choc, avec la qualité de l'optique, la qualité... du verre, voilà, c'est exactement la même chose, et ça répond bien sûr à une norme particulière.
On a une question qui nous est arrivée au 39-21. On nous demande si sur les combinaisons, vous pouvez par exemple travailler sur des combinaisons pour triathlètes qui n'ont pas forcément les mêmes besoins.
Alors, on pourrait ou on pourra. Ce qui va changer, c'est la densité du néoprène, l'épaisseur du néoprène, et donc les machines que l'on va utiliser pour assembler la combinaison. Aujourd'hui, nous ne sommes pas équipés pour faire des combinaisons de néoprène, mais effectivement, la demande est là, et dans l'avenir, on peut imaginer que rapidement, nous allons le faire.
Je précise que j'ai dit une bêtise tout à l'heure, parce que j'ai dit Rélier, c'est Albert, évidemment. Replacer, voilà.
J'ai eu un coup de fil de Monaco.
Non, mais je précise, je me suis aperçue que j'avais effectivement... Non, vous savez, tout le monde veille, hein, j'ai un petit message, pas de Monaco, mais j'ai un petit message pour me dire, attention, Rélier, il faut préciser, donc je précise. Vous avez le sentiment qu'un salon, comme on en connaît un en ce moment, puisqu'il a ouvert ses portes aujourd'hui, il se tient jusqu'au 13, c'est véritablement aussi l'occasion de démocratiser une activité telle que la plongée sous-marine?
Oui, absolument. C'est un lieu de rencontre. Donc, il y a énormément d'échanges qui se font. C'est des nouvelles technologies où les technologies sont mises sur le devant de la scène. Donc, c'est l'occasion pour le public d'en prendre connaissance. Et pour les fabricants d'équipements, c'est une période qui est intéressante, puisque ça permet aussi de relancer et d'embrayer sur la saison qui arrive, qui démarre, elle, en général, à partir du mois d'avril. Donc, ça vient relancer l'activité à un temps creux, en fait. Donc c'est intéressant à triple.
Mais c'est aussi l'occasion pour Odive ou pour nous de faire connaître les produits. Parce mm-hmm. que nous avons des produits nouveaux, innovants mais nouveaux. Et le salon est un lieu adéquat pour les faire découvrir.
C'est un lieu de passage avec effectivement des gens qui ne sont pas forcément des initiés, qui viennent découvrir et qui peut-être vont avoir envie
Mais même les initiés ont besoin d'avoir l'information. Et le salon est le lieu idéal pour ça.
Gilles Demetz.
Tout à fait, pareil. Exactement pareil. Moi, je suis très surpris tous les ans de m'apercevoir que, puisqu'on fait le salon depuis maintenant une vingtaine d'années, qu'il y a des gens qui ne savent pas encore que les masques de plongée, ça existe avec verre correcteur, ou qui s'imaginent que c'est beaucoup plus cher qu'effectivement ça ne l'est, ou qui ne savent pas effectivement comment on peut se fournir ce type de produit. Donc on est là pour les renseigner, ça les rassure. Et je pense qu'ils repartent du salon, on va dire, bien armés entre leurs voyages, leurs équipements, les partages qu'ils ont avec leurs copains. C'est très sympa.
Et je voudrais qu'on termine, puisqu'on est sous l'eau, avec une appli qui protège les fonds marins des ancrages des bateaux, Elisabeth.
Elle s'appelle Donia, D-O-N-I-A. C'est une appli qui permet aux plongeurs d'échanger des informations tout en contribuant à protéger les écosystèmes les plus sensibles, par exemple comme les herbiers sous-marins. Cette appli a obtenu des récompenses et elle figurait aussi parmi les finalistes du prix européen 2014 de l'environnement, Donia, D-O-N-I-A.
Merci à tous les trois d'être venus
Merci à vous,
sur Europe 1. Il est 13h47.
Europe 1.
Et leur passion pour le surf a donné naissance à leur entreprise. Vous allez découvrir avec nous l'histoire des laboratoires Biarritz. C'est l'entreprise qui va bien.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est l'heure, Raphaël, de découvrir l'entreprise qui va bien.
On était en pleine plongée tout à l'heure et l'entreprise qui va bien nous emmène cette fois au bord de l'océan. Bonjour Bruno Collet.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. C'est vous qui dirigez cette entreprise à Biarritz, entreprise de cosmétiques bio, les laboratoires de Biarritz. Tout commence d'ailleurs là-bas. Au départ, c'est la passion du surf qui amène Jean-Marc et Muriel Dubois au bord de l'océan. Ils passent toutes leurs vacances là-bas, ils sont parisiens. Et puis finalement, un beau jour, ils décident de s'installer. Et ils cherchent systématiquement des crèmes qu'ils ne trouvent pas pour se protéger. C'est comme ça que l'aventure démarre.
Voilà, l'aventure démarre donc il y a quelques années. Jean-Marc et Muriel, comme vous le dites, se déplacent régulièrement du côté de Biarritz. Et ils ont trois enfants. Et ça fait partie aussi de leur priorité. C'est de protéger les enfants de manière saine et de protéger les enfants aussi à permettre à ne pas abîmer l'écosystème qui est tout autour d'eux. Et leur écosystème, à ce moment-là, c'est le surf. Leur vie, c'est le surf sur Biarritz. Et effectivement, avec les produits qui sont sur le marché à ce moment-là, ils voient, ils observent cependant une certaine détérioration de du film qui se dépose sur les océans.
On est en 2011 à l'époque.
Oui, exactement.
Il se trouve que Muriel est la meilleure amie de votre femme.
Exactement.
Et que du coup, elle va rejoindre l'aventure dans la recherche et le développement. Et ils vont ensemble commencer à s'intéresser aux algues.
Exactement.
Et au pouvoir des algues.
Au pouvoir des algues. Donc, c'est reproduire en fait ce qu'on peut trouver dans la nature, essayer de reproduire ça et l'utiliser de manière intelligente pour l'adapter à notre société.
C'est-à-dire ne pas mettre dans une crème finalement autre chose que ce que nous donne la nature.
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, on se retrouve sur une crème chez nous, sur des produits qui sont complètement certifiés bio, qui viennent avec des ingrédients qui sont évidemment principalement biodégradables, qui viennent aussi avec sur certains produits, on a des actifs qui sont brevetés, qui sont divers, qui ont été découverts au fur et à mesure de l'aventure, au départ sur l'algue rouge, mais aussi sur l'algue brune, qui au fur et à mesure, à travers une recherche qui se fait en interne, parce que ça c'est super important chez nous, c'est que toute la recherche se fait en interne, nous ne sommes pas en fait
Les laboratoires sont intégrés.
On n'est pas des intermédiaires, on n'achète pas nos produits sur
chez des façonnés. Vous avez même un herbier géant avec tout qui est ressourcé à l'intérieur ?
Alors, on a des informations qui sont contenues, alors pas tellement dans les laboratoires aujourd'hui, mais à l'intérieur des bureaux. Mais certes, on travaille aussi en collaboration avec une université. Hein,
L'université de Pau.
L'université de Pau. Pour pas la citer, on relance un programme d'ailleurs avec eux ici avec une personne pendant les prochaines années, et justement pour continuer cette recherche qui est super très très importante. Et cette recherche nous a permis non seulement d'avancer avec les produits qui étaient des écrans minéraux sur le solaire, mais aussi de développer, parce que c'était très important pour l'entreprise, d'autres gammes de produits.
Alors, vous avez plusieurs gamme solaire, gamme aussi plus récente hein, pour mettre dans la poche des skieurs, une gamme pour les enfants, pour les tout-petits. Votre démarche, on l'a dit, elle est très environnementale. Les emballages sont 100% recyclables. Vous avez véritablement besoin d'être au plus près de la nature dans tout ce que vous faites.
C'est ce qu'on essaye. Alors, quand je reviens sur le 100%, parce que c'est déjà une notion qu'on essaye de ne pas utiliser, parce qu'effectivement, il y a une évolution constante. Et autant sur les emballages, certains sont recyclés, d'autres sont plutôt en packs végétaux. C'est plutôt là-dessus qu'on a basé notre nouvelle gamme de produits qui sont destinés donc aux soins pour les enfants, qui s'appelle donc Alganatis, hein, qui est lancé sur le marché cette année-ci. Et qui va, à travers les prochains mois, apparaître dans une grande majorité des maternités françaises. Donc, ça va être un produit qui va être tout à fait référencé et conseillé, puisque on travaille parallèlement effectivement la recherche sur les produits, mais aussi effectivement on demande une certaine approbation du corps médical de pouvoir essayer et recommander nos produits.
Luc Le Sénécal, notre coach.
Décidément, je veux devenir un spécialiste des produits bio, puisque la dernière fois, nous avions une émission. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est un secteur extrêmement concurrencé. Il y a beaucoup de non-lisibilité sur le label bio. Qu'est-ce que vous apportez comme garantie? Moi, j'ai envie d'utiliser vos produits. Vous avez un bon argumentaire, j'ai confiance, mais j'ai des enfants. Quelle garantie vous donnez? Pour qu'on utilise vos produits?
Alors, il y a plusieurs types de garanties. Il y a d'abord les certifications qui existent et qui sont reconnues, qui sont les certifications comme EcoCert, comme Cosmos.
Laquelle vous avez?
On a les deux. Donc, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Autant donc dans notre choix des ingrédients, dans notre choix des sociétés qui sont principalement françaises avec lesquelles donc on collabore au niveau de l'approvisionnement, autant au niveau du façonnage, on recherche les certifications. Après, on va plus loin parce qu'on recherche d'autres certifications. Évidemment, on veut être... on avait juste avant ici donc les plongeurs.
Oui, et puis vous étiez navigateur.
Moi, je suis navigateur. On continue, c'est un peu le lien aussi qu'il fait avec la mer. On a des bateaux aujourd'hui qui circulent avec et qui parlent de nos produits, qui utilisent les produits. Mais donc, on a aussi envie de montrer que ces produits n'ont pas d'impact sur les fonds marins, sur l'écosystème marin. Donc, évidemment qu'on va pousser nos tests autant...
Donc à la fois sur la santé, l'environnement.
Et sur l'environnement.
Vous faites visiter votre entreprise?
Oui, on peut le faire visiter. On fait visiter l'entreprise chez nous. On l'a encore fait il n'y a pas longtemps avec justement une autre.
Super.
Voilà.
Et vraiment coup de chapeau parce que ça n'était pas simple quand vous êtes arrivé. Il y avait eu un décès dans l'entreprise. Vous avez repris effectivement l'entreprise. Il y a eu une liquidation judiciaire. Vous avez réussi à remonter la pente. Voilà. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires est plutôt florissant.
Oui, j'ai entendu qu'on parlait de croissance. On est avec une société qui a une croissance de 60%. On est à l'export. On fait un tiers de notre chiffre à l'export. On est avec des belles nouvelles à l'étranger aussi, parce que quand on entend certains pays qui mettent des restrictions sur les protections qui sont chimiques, ça va tout à fait dans le sens de ce qu'on doit faire. Donc voilà, la recherche, on continue, on est en interne, c'est vraiment important.
C'est capital, vous avez raison. Et c'est pour ça qu'on a plaisir à vous avoir reçu aujourd'hui pour parler des laboratoires de Biarritz. C'est l'entreprise qui va bien. Merci Bruno Collet d'avoir été avec nous. Merci à Luc Le Sénécal qui était notre coach aujourd'hui. Bon week-end Luc. Bon week-end aussi. Céline et Elisabeth, on se dit...
Bonne fin de semaine Raphaël.
À lundi. Bon week-end, c'était Raphaël Duchemin. C'était La France Bouge avec AXA Prévention. Accompagnement des chefs d'entreprise, santé et sécurité des salariés. Retrouvez un dispositif de prévention gratuit sur le site axaprévention.fr. www.europe1.fr et ne bougez pas. Dans un instant sur Europe 1, c'est Christophe Ondelat qui arrive.